Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Nous comptons sur votre soutien en partageant, en likant et en mettant des étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez surtout pas à nous faire des suggestions sur les différents réseaux sociaux où nous partageons notre podcast. Aujourd'hui, on va se diriger vers le Togo en Afrique de l'Ouest pour retrouver notre invité du jour. Il s'est lancé comme défi il y a quelques années de créer un bouillon unique en Afrique, 100% naturel, et l'a fait dans son pays d'origine, le Togo. AfriCube, c'est le nom du bouillon fait avec des produits locaux lancé par sa start-up Awenu en 2017. Merci d'accueillir avec moi sur le podcast Monsieur Haïté Ajabo. Bonsoir Haïté.
Oui, bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va, Dieu merci, et toi-même?
Ça va bien, ça va bien. Je dirais merci à LinkedIn, car c'est grâce à ce réseau que j'ai pu faire ta connaissance. Merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Avec grand plaisir.
Donc pour commencer, on a l'habitude de laisser l'invité se présenter lui-même, donc on va te laisser le soin de dire aux auditeurs qui est Haïté Ajabo.
Ok, Haïté Ajabo, c'est un entrepreneur, hein, j'ai 45 ans. Donc d'origine togolaise. J'ai plutôt grandi en France et aux États-Unis et aujourd'hui j'ai fait le choix, il y a presque 5 ans de cela, de revenir dans mon pays d'origine, dans le pays de mes ancêtres pour participer, on va dire, offrir ma petite pierre à l'édifice de la renaissance africaine.
D'accord, donc si on a bien compris, tu es né en France ?
Tout à fait.
Et tu as fait les deux continents. Tu as gardé un lien étroit avec le Togo, ton pays d'origine, j'imagine.
Oui, oui, oui. Je revenais souvent ici étant petit. Bon, j'ai grandi, mes premières années, j'ai grandi quand même. J'étais au jardin d'enfants à Lomé. Ensuite, j'ai vécu en France. Oui, tout à fait. J'ai vécu en France, on va dire, et jusqu'au bac. Je suis parti aux États-Unis après, mais je suis souvent revenu ici étant jeune, étant adolescent, quoi. Donc, je n'ai jamais perdu le lien vraiment avec le Togo. Toutes mes études, je les ai faites en France.
En France,
primaire,
d'accord.
Secondaire, jusqu'au bac. Première année d'université, j'étais en Bretagne, à l'université de Haute-Bretagne à Rennes. Donc, c'est là-bas que j'ai grandi. Et oui. C'est après l'université que j'ai décidé de m'exiler à New York, aux États-Unis, où je suis resté pendant 10 ans. Mais je n'ai pas fait d'études là-bas, j'ai bossé.
Quand même, 10 ans. Alors, tu as bossé dans les études que tu faisais ou tu as trouvé une autre voie aux États-Unis?
Non, en fait, moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très académique. Hein. J'ai eu mon bac à l'arrache. J'ai eu mon bac à l'arrache. J'ai fait une année d'université pour rien, on va dire. Et donc, je suis parti me chercher aux États-Unis, vivre le rêve américain. Et donc, non, je suis parti là-bas. Je ne parlais pas anglais. Je n'avais pas les papiers. Et donc, j'ai vécu au début de petits jobs à la débrouille, quoi. Voilà.
D'accord, ben c'est pas un cas isolé. Hein. Beaucoup de personnes tentent cette aventure. Certains réussissent à réaliser leur rêve, d'autres non. Et 10 ans après, bon, quand même 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses.
Oui, oui, c'est passé énormément de choses, mais c'est vraiment là-bas que j'ai construit aussi mon esprit entrepreneurial. En fait, les États-Unis, c'est l'autre côté de la France. La France où il y a beaucoup l'assistanat, et aux États-Unis, c'est vraiment tu te débrouilles, tu marches ou crèves. C'est-à-dire que si tu ne veux pas bosser, si tu ne bosses pas, on t'écrase, on ne te regarde même pas, ni l'État va t'aider, personne ne va t'aider. C'est vraiment un monde là où l'individualisme prime. Et paradoxalement, ça te construit parce que là, tu te dis, j'ai pas le choix, il faut que je bosse. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'on te laisse t'épanouir. C'est-à-dire que tu viens, tu veux bosser, on te laisse la chance. Tu commences. Moi, j'ai commencé les petits boulots, comme je vous ai dit. J'avais une pancarte, j'étais sur la 5e avenue, c'est un peu les Champs-Élysées de New York, et j'avais une pancarte devant, derrière, ce qu'on appelait homme sandwich, et je distribuais des flyers comme ça pour $3 de l'heure. L'été, j'ai fait ça en plein soleil, c'était horrible. Et après, j'ai travaillé dans des petits magasins, et c'est petit à petit que j'ai appris l'anglais comme ça, et la débrouille. Et ça m'a vraiment construit. Et après, j'étais dans la restauration, où j'ai commencé vraiment pratiquement à faire la vaisselle, et j'ai terminé à être gérant de restaurant, vous voyez, et après ouvrir ma boutique et faire différentes choses. Donc c'est très intéressant là-bas. Si tu veux bosser, on te laisse travailler, tu peux monter les échelles comme tu veux, quoi. Donc,
Oui,
c'est vraiment ce qui m'a construit.
c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de voir hein, des États-Unis et tout. Malgré tout ça, tu décides de revenir en France directement pour travailler ou qu'est-ce qui t'a fait revenir du coup?
Voilà, bon, en fait, le problème des États-Unis, à la fin, c'est boulot, 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 et
Oui.
on finit vite par perdre sa santé, on mange mal, on mange n'importe comment, on n'a pas de congé. Donc, le premier enfant, il est né là-bas, il est né là-bas en 2003, je le voyais jamais, je quittais le matin, il dormait, je reviens le soir, il dormait, je travaille pratiquement 7 jours sur 7, et je me suis dit, non, c'est pas une vie. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai pris ce que j'avais à apprendre aux États-Unis. Maintenant, il est temps de rentrer et retrouver une qualité de vie et justement exploiter tout ce que j'ai appris aux États-Unis en France. Et c'est pour ça que je suis revenu pour mon fils, on va dire, pour profiter de lui, le voir grandir et pour retrouver une certaine qualité de vie dans l'Hexagone.
D'accord, donc tu reviens, tu retrouves cette qualité de vie, tu travailles et j'ai cru comprendre que tu as été chef de projet de service informatique.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit le grand écart. Quand je suis revenu en France, donc j'avais toujours pas de diplôme, évidemment, mais j'avais une très grosse expérience dans le management d'équipe, dans la gestion d'un centre de profit, etc. Mais tout ça, ça s'est fait de manière informelle. Et donc, quand je suis revenu en France, j'avais toujours sur le CV, j'avais cette expérience, mais aucun diplôme. Et j'ai voulu
Oui.
travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, en tant que directeur de grands supermarchés ou directeur d'hôtel. J'ai jamais trouvé de travail. J'ai vraiment galéré, galéré et je trouvais pas de travail. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter de chercher dans cette zone-là. Je suis revenu avec un atout, c'est-à-dire que j'étais parfaitement bilingue. Donc, j'ai commencé à chercher des boulots là où on demandait des personnes bilingues, quel que soit le domaine. Et il y avait une petite annonce, ils cherchaient des techniciens de call center pour un client bancaire, c'était la Société Générale, pour pouvoir répondre en anglais aux traders de la Société Générale qui était basée à Londres. Donc j'ai passé l'entretien, je connaissais rien à l'informatique à part ce qu'on connaît de notre ordinateur. Et à
Basique,
l'époque, il n'y
oui.
avait pas, voilà, c'était les trucs basiques, quoi. Le traitement de texte, Excel, parce que tout ça, j'ai appris aux États-Unis dans les différents boulots que j'ai faits. Mais c'est tout. Mais pour être technicien informatique, non, pas du tout. Mais j'ai été quand même. Et quand j'ai fait ce qui était drôle, quand j'ai fait l'entretien, c'est que la personne, elle m'a juste dit, bon, tu sais comment fonctionne un ordinateur? Je dis oui, tu parles anglais. J'ai commencé à parler anglais. Le gars était subjugué. Il a dit OK, on te prend. Il ne pouvait même pas faire l'entretien avec moi parce que même son anglais en tant que manager, ils ont tellement du
Il n'y
mal.
avait
C'est
pas
un
de
peu
niveau.
différent maintenant. Là, c'était en quelle année? En 2007. Mais bon, en France, on a toujours eu des mauvais programmes pour apprendre les langues étrangères. Et donc, ils ont, à Paris, ils ont du mal à trouver, en tout cas, ils avaient, je ne sais pas maintenant, à trouver des gens qui parlaient bien anglais. Et donc, ils m'ont recruté tout de suite. Et donc, j'ai travaillé dans un call center. Je suis arrivé en tant que technicien. Ils appelaient ça même niveau zéro, hein. C'est comme quand vous appelez, je ne sais pas qui, Free ou quoi. Et il y a
Ouais.
quelqu'un qui prend vos appels. Il vous fait juste un ticket. Voilà, c'est le problème. Il prend vos noms et puis il envoie ça à un vrai informaticien qui va vous
D'accord.
rappeler si nécessaire. Donc, il fait vraiment un job. Voilà, c'est vraiment une prise de ticket et renvoyer. Et j'ai fait ça, mais très rapidement, je suis monté en niveau parce que le rythme que j'ai retrouvé en France, moi, j'avais jamais travaillé en France en fait. Toute mon
Ah,
expérience de
d'accord.
travail, c'était aux États-Unis. Et le rythme qu'il y avait dans une entreprise française, mais ça m'a dépassé. C'est-à-dire, c'était tellement lent. Encore une fois, les États-Unis, c'est l'extrême. C'est-à-dire que on bosse, on bosse, on bosse, on ne prend pas de vacances, on fait plus d'horaires, on fait les week-ends, on fait les nuits, toutes les heures qu'on prend, on prend pour faire de l'argent. Et là, j'ai vu un rythme où tout le monde est lent, où les gens arrivent tout doucement.
Ils font leur petit quota.
Il y a les pauses café chaque 15 minutes, les pauses clope. Tout le monde parle des. Tu arrives le lundi, on te parle déjà du week-end qui va arriver. Il y a les RTT. Moi, j'étais là vraiment plutôt dans. Je recherchais les performances, surtout dans un call
Oui.
center avec des traders en banque. Donc, chaque minute est cruciale. Et donc, j'étais vraiment dans le monde travail. Et c'est grâce à ça que je suis très monté facilement. Je pense qu'après après 6 mois, on m'a mis superviseur.
Quand même.
Superviseur. Voilà. Et je pense qu'après, à ma première année, c'est là que je suis devenu responsable du call center. On était deux, on était un binôme et on gérait 30 personnes. Donc, Voilà, et donc c'est là que j'ai fait mes premières 4 années en tant que responsable de call center dans un support informatique dans le corporate banking à la Défense pour la Société Générale. Voilà, donc ça, c'est grâce à l'anglais et
Grâce à ton
grâce vraiment
expérience, finalement, aux États-Unis,
à mon,
comme
tout à
quoi?
fait, à mon expérience où tu as un objectif et tu vas le chercher. Et après, je suis quelqu'un, j'avoue, j'apprends vite, je m'adapte vite. Et voilà, quoi, je voulais vraiment faire quelque chose de ma vie. Donc ça a été ma première expérience. J'ai fait 4 ans là-bas. Et après, je ne me suis plus arrêté. Après, j'ai vu qu'il y avait un plafond de verre où je ne
Oui.
pouvais plus évoluer plus haut dans le management. On m'a débauché pour aller travailler à la BNP Paribas. Et là, c'est là que j'ai commencé justement à rentrer vraiment dans le pur et dur de l'informatique. Donc, je vais vous passer les détails, mais il y a une anecdote qui est très marrante, c'est quand j'ai passé l'entretien, parce que là, c'était vraiment de l'informatique pure et dure, hein, et c'est du binaire. Donc, normalement, tu ne peux pas inventer quelque chose quand tu passes un entretien. Là, ce n'est pas du marketing. Voilà.
Oui.
Et donc, moi, j'étais un consultant. Donc, je suis parti avec mes deux managers de ma boîte de consulting. Il faut savoir que dans l'informatique bancaire, 90% des gens qui travaillent là-dedans sont des consultants. Hein, ils ne sont pas internes à la banque.
D'accord.
Et donc, j'ai été faire l'entretien avec mes deux managers et il y avait en face de moi deux personnes internes de la banque, de BNP. Mon CV, donc les consultants, ils avaient bien maquillé ça pour que ça fasse beau. Le gars, il connaît. Okay. Et donc, ils ne voulaient même pas me laisser parler. Ils ont dit, ah, mais c'est super, le CV est parfait, c'est exactement ce qu'on cherchait. En plus, c'était une création de poste, c'est-à-dire que j'allais arriver
Ah oui,
et
carrément.
créer des procédures. C'est même pas que quelqu'un allait me former, me dire, non, non, il y avait chaise vide. Et donc, je me suis quand même présenté. J'ai parlé de mon expérience, bien entendu, à la Société Générale et mon expérience américaine, juste pour dire que je suis bilingue et que je m'adapte, etc. Et à la fin, voilà ce qui s'est passé. J'allais partir, tout allait bien, et la personne de la BNP m'a dit, attendez un instant, il a feuilleté encore mes 3 pages de CV, je ne sais pas comment ils ont bourré ça, et ils ont dit, mais écoutez monsieur, par contre, je ne vois aucune certification ou diplôme informatique. Nous, on a besoin de quelqu'un d'opérationnel tout de suite, est-ce que ça va poser un problème? Je dis non, donc vraiment droit dans mes bottes,
Oui.
et la personne elle me dit, ok, donc je vais vous poser une question.
Ah, ok.
Je vais vous poser une
Comme
question
ça.
technique. Une question technique, vous voyez? Et là, c'est la sensation d'être un voleur qui a volé dans un supermarché, qui s'apprête à sortir, et il y a le vigile qui vous appelle. Et là,
Au
vous
pas de la
demandez,
porte,
OK,
à la sortie.
voilà, est-ce que je cours ou est-ce que je reste? Je m'avoue vaincu. Vous voyez? J'étais vraiment dans une situation comme ça. Et la personne me pose la question, une question ultra technique d'informatique, hein, et je m'en rappellerai toujours. Hein. Il m'a posé la question, il m'a dit, si je vous parle de l'ordonnanceur NSM 3.1, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et là, il y a mes managers qui me regardent, tout sourire,
Ils savaient,
sourire
eux.
jaune. Oui, mais ils me regardent en pensant, t'as intérêt à bien répondre, ou en tout cas, il ne faut pas rater le truc, quoi. Et dans ces situations, la première chose qu'il faut faire, hein. Quand vous posez une question, vous ne savez pas quoi répondre, vous devez gagner du temps. Donc vous reposez la question, alors l'ordonnanceur NSM 3.1, mais avec une tête, genre vous savez, c'est juste que vous allez chercher l'information. Et là, il faut aller très vite. C'est-à-dire que j'ai fait marcher mon cerveau et je me suis dit, OK, il me parle forcément d'un outil informatique. Je ne peux
Oui.
pas inventer, mais je peux répondre. Et ce que j'ai répondu, j'ai dit, NSM 3.1, écoutez, je vois ce que c'est, mais on n'utilisait pas cet outil à la Société Générale. À peine j'ai dit ça, il a répliqué, ah oui, effectivement, à la Société Générale, vous utilisez plutôt ça, ça, ça. Et donc, à la fin, j'ai réussi à répondre sans répondre, juste en disant que je ne connais pas ce modèle d'outil, mais parce que nous, on utilisait un autre à la Société Générale, sans savoir de quoi on parlait.
Parler.
Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc, j'ai joué vraiment une carte de poker. Et à la fin, j'ai été pris. J'ai
Il n'a
été
pas
pris
insisté?
par. Non, il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté.
Oui.
Je lui ai juste dit que, à la Société Générale, parce que j'avais un air comme si je le savais. Vous
C'était
voyez?
trop. Tu étais
Je l'ai
sûr de toi.
regardé au fond
L'assurance
de
est
moi, je l'ai
importante.
regardé dans les yeux et je lui ai dit non, non, je ne connais pas cet outil. Parce que nous, on utilise un neutre à la Société Générale. Point trait. Et comme, voilà, il a fait sortir sa science, et maintenant, en me répondant, il m'a dit exactement qu'est-ce que c'était.
Ah,
tu vois?
Okay.
Et donc, c'est comme ça, j'ai été pris, et là, j'ai fait 4 ans. Pareil, personne ne parle anglais, donc ils m'ont mis sur le pôle Moyen-Orient. J'ai eu à faire des voyages au Bahreïn, à
Wow.
présenter tout ça parce que je parlais anglais.
Ton rêve américain, en fait, tu l'as vécu en France, en gros.
Oui, en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Hein. Franchement,
c'était le rêve français pour toi. Je ne pense pas que tu envisageais ça quand tu rentrais, pas forcément dans
pas
ce sens-là.
Pas du tout. Par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi. Après, je suis rentré là-dedans. C'est juste pour dire qu'à la fin, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Mais l'informatique bancaire, ça gagne bien et il n'y a jamais de chômage. Au contraire. Vous voyez, en 10 ans, j'ai changé donc Société Générale d'abord, ensuite BNP Paribas. Quand j'ai terminé, je suis passé à Crédit Agricole, LCL. Vous voyez? Et à chaque fois, mon salaire augmentait. J'avais même plusieurs choix là-dedans. Donc, c'est pour ça. Mais ce n'était pas du tout une passion. C'était vraiment un job alimentaire. Je gagnais très bien ma vie et il n'y avait pas de problème de chômage. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses quand j'ai commencé la chefferie de projet en termes de structuration, en termes d'organisation, en termes d'outils de surveillance, de tableau de bord. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris quand même.
C'était pas lourd d'apprendre comme ça sur le terrain, vu que de ce que tu expliques, tu as tout appris comme ça, en fait, par ton audace, finalement, parce que rien ne t'arrêtait, en fait. C'était pas très lourd.
Bon, c'est difficile, mais on a la chance d'avoir autour de nous des ressources. On a Internet. Dès que tu ne connais pas un mot, tu tapes sur Internet. Tu ne connais pas un outil informatique, tu ne connais pas des process, tu ne connais pas quelque chose, tu vas et tu t'abreuves de tout ça. Et après, pareil, tu as des collègues. Alors là, du coup, tu as des vrais informaticiens qui sont là, tu leur poses des questions. Après, il faut savoir comment faire. Et moi, c'est vrai que mon boulot, il y avait beaucoup de com aussi, puisque j'avais un boulot où j'étais entre les financiers et les informaticiens purs et durs. Et moi, mon travail, justement, en tant que chef de projet, c'est de faire aboutir un projet. C'est-à-dire que moi, c'est pas moi le maçon, c'est pas moi l'électricien, c'est pas moi le plombier. Je prends souvent l'image d'un chef de projet qui va vous construire une maison à vous, cliente. Le client, il vous dit, voilà, moi, je veux cette maison. Qui devrait être réalisé en tant de temps, avec tant d'argent, avec telle spécificité. Et vous, vous faites tourner la machine avec toutes les personnes qui vont travailler pour construire réellement cette maison. Vous voyez?
D'accord.
Donc, vous avez pas besoin d'être plombier ou d'être maçon. Vous devez connaître le fonctionnement, par exemple, dans mon cas, d'un système informatique, évidemment, mais ça s'apprend. Mais après, oui, il faut avoir une capacité de s'adapter, une capacité d'apprendre rapidement, de s'adapter. J'ai eu beaucoup de fois où vous êtes en réunion live comme ça et vous ne savez même pas de quoi on parle ou quoi, mais vous devez avoir la tchatch. Voilà, vous devez avoir la tchatch. Et à la fin, vous reposez sur des réelles expertises.
Oui.
Et à la fin, quand moi je suis parti de la BNP, tout le monde était content. J'ai réalisé les choses comme je devais le faire et c'est ça le plus important. Et comme je l'ai dit, hier, je suis intervenu dans un live justement à Ouagadougou, dans une école d'ingénieurs.
Dans mon pays.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et je leur ai expliqué que c'est la débrouille. Il faut se débrouiller, il faut aller chercher l'information par rapport à son objectif. Donc, vous voulez travailler, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez quoi, 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 allez-y. Ne soyez pas timide, faites ce que vous allez à faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis et malheureusement, dans les systèmes francophones, et ça, c'est encore aussi, on va dire, un héritage de la colonisation, on est toujours dans l'assistanat, dans l'attente. Et c'est pour ça que quelquefois, on est en retard sur les pays anglophones en Afrique qui sont vraiment plus dans le mode anglo-saxon où, OK, tu vas te débrouiller, voilà, ce qu'on appelle hustling, la débrouille, quoi. Voilà.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est assez édifiant quand même ton exemple pour le système français parce que on t'aurait empêché d'avoir ces postes parce que tu n'aurais pas fait de formation en informatique. En fait, tu n'aurais pas eu toute cette expérience et tu n'aurais pas apporté tout ce que tu as apporté aux entreprises où tu es passé. Donc vraiment, moi, je pense que c'est vraiment un exemple que devrait prendre, le système français en général. Hein. C'est pas que je critique spécialement, mais voilà, moi, je suis dans le système depuis des années. Je vois comment ça fonctionne. Même en interne aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile d'évoluer. Je dis pas qu'il faut pas prendre des personnes qui font les formations. Voilà, ils ont fait des études, c'est normal qu'ils aient du boulot, mais voilà, il y a des personnes quand même qui sortent du lot, qui méritent quand même qu'on leur donne, qu'on leur accorde leur chance. Et ça, voilà, c'est assez,
Tout à
assez
fait,
intéressant
merci.
comme, comme parcours en tout cas. Et donc, successful dans ton boulot, dans ton travail, qu'est-ce qui te pousse à rentrer au pays et à créer ta start-up? Et surtout, qu'est-ce qui te pousse à créer un bouillon 100% naturel?
Bon, déjà, moi, mon objectif au long terme, c'était de rentrer au pays. La France, le retour en France n'était qu'un retour intermédiaire. Et moi, je voulais rentrer au pays et avoir un projet de création de richesse. Je voulais pas juste faire du business, importer des portables, des ordinateurs, des voitures et les revendre. Je voulais créer quelque chose à partir de ce qu'on a, à partir de nos ressources. Voilà, donc ça, c'était important, mais je n'avais aucune idée dans quoi j'allais faire ce projet. Surtout que, voilà, si tu vois mon parcours, je n'ai aucune expertise dans rien du tout, je suis pointu dans rien. Je m'adapte, je vais à droite, à gauche, mais voilà, je n'allais pas venir au Togo pour faire de l'informatique, de la finance, de la restauration. Non, non, pas du tout.
Mais tu aurais pu, hein?
J'aurais pu, mais bon, voilà, ça c'est le deuxième point. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'informatique bancaire, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Quand on fait ça derrière les écrans, on vit dans une bulle. On voit en plus dans la banque, voilà, on voit des millions, des milliards transférés à droite, à gauche, dans une tour, à la Défense ou ailleurs. Voilà, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait en fait. Tu n'as rien fait. Tu as travaillé pour je ne sais pas qui, mais tu n'as rien fait. Donc, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, je vais pas cracher dessus. C'était une bonne expérience. J'ai beaucoup appris, mais ça pouvait jamais être mon objectif de vie, bien que je gagnais bien ma vie. Donc, je ne savais pas. Je savais seulement que je voulais rentrer au pays pour faire quoi, je sais pas. Il y a eu plein d'idées qui se sont passées derrière la tête. Bon, voilà. Et jusqu'au jour où j'ai croisé sur Facebook une publication qui s'appelait Les dangers du cube magie. Voilà. Donc, comme tout le monde, hein, moi, je consommais le cube magie de manière automatique, systématique, sans me poser des questions. J'ai jamais regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai lu cette publication et c'était vraiment édifiant. C'était vraiment, c'était choquant. Et j'ai lu ça, je dis waouh, la composition des cubes, c'est fait avec ça, ça, ça. Les conséquences peuvent être ça, ça, ça. Et bon, du coup, ça m'a intrigué. J'ai continué à faire les recherches sur le net et tout revenait au même, c'est-à-dire que c'était, bon, pas que magie, hein, tous les autres, des bouillons fabriqués à base de produits chimiques et synthétiques, sans aucune valeur nutritionnelle, avec une énorme quantité de sel et d'autres produits chimiques, avec rien d'organique à l'intérieur. Et c'était des produits qui étaient fabriqués par des entreprises non africaine à 80%. Et je me suis posé la question, je dis, mais je ne comprends pas quelque chose. En Afrique, ces bouillons-là sont pratiquement dans l'ADN de nos cuisines. Au Togo, au Burkina, et encore pire, au Mali, au Sénégal. Et on peut le retrouver aussi en Afrique centrale, dans toute l'Afrique francophone et même anglophone, au Nigeria, au Ghana, aussi partout. Et c'est un élément incontournable. C'est comme du sel et du poivre, je ne sais pas. Les gens ne peuvent même pas plus préparer sans, que ce soit les privés ou les restaurants. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas. Au Togo, par exemple, on a tout qui pousse. On a toutes les épices du monde qui poussent. Ces épices-là, même qu'on vend à vil prix, les Chinois viennent chercher nos gingembres, les Indiens viennent chercher notre muscade, notre poivre, mais nous, on ne l'utilise pas pour faire nos propres condiments. Et on utilise un produit chimique qui a été fabriqué donc, dans un laboratoire quelque part il y a 50 ans ou 100 ans, que ceux qui fabriquent ne consomment pas eux-mêmes Et donc là, il faut se poser la question, quelqu'un qui fabrique quelque chose, qui vend quelque chose, mais qui ne le consomme pas lui-même, il y a forcément un problème.
Il y a forcément... Ça, c'est poser des
questions. Oui, il y a forcément un problème. Et je me suis dit, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en ayant quand même des doutes? Parce que tu as l'impression d'avoir inventé l'eau chaude. Tu te dis, mais attends, il y a au moins une centaine de marques de cubes. Pourquoi il n'y en a pas un seul qui est naturel et africain? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas. Donc là, il faut aller sur le terrain et il faut voir. Je prends des vacances, je vais à Lomé avec une connaissance qui s'y connaît en épices. On a écumé les marchés, on a rassemblé toutes les épices qu'on pouvait prendre et on a essayé de voir est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait plusieurs voyages et pendant ce temps-là, j'étais en train de rédiger mon plan d'affaires en faisant ces voyages. Est-ce que c'est un projet qui peut être viable, qui peut être rentable, qui peut être faisable, qui peut être même qui est souhaitable? Est-ce qu'il y a aussi un besoin de l'autre côté? Parce que quelquefois, on est dans sa petite bulle, on pense avoir inventé un super truc.
Le Parisien
truc.
Qui débarque. Oui.
Tout à fait, tout à fait. Et à la fin, on se prend un mur parce que non, il n'y a que toi qui a envie de ça. Donc, si les gens ont envie de manger des bouillons chimiques, tu ne vas pas les forcer. Donc voilà, c'est comme faire une bière sans alcool et essayer de la vendre au Cameroun ou au Congo. Excusez-moi.
Au Burkina.
Au Burkina. On va te dire, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est venu comme ça, grâce à une publication, et c'est là que j'ai commencé à faire jusqu'à temps que j'ai été convaincu que ça peut marcher. Et là, donc j'ai démissionné, en septembre 2016, j'ai démissionné. Et mon plan de financement, donc c'était l'argent que j'ai pu récupérer. Et j'ai fait un prêt. J'ai fait un prêt.
Personnel, tu n'as pas fait de levée de fonds Tu n'as pas eu recours à des investisseurs?
Ah, non, okay. Non.
D'accord.
Je ne sais pas. Je n'ai jamais été séduit par ce mode de financement. Je ne sais pas. J'ai toujours pensé que ça, c'était pour la fintech et pas forcément pour l'agroalimentaire. Et puis, j'aime pas demander, voilà, j'ai un projet, est-ce que tu as de l'argent pour faire mon projet? Je n'aime pas ça. Pour moi, au moins, je devais démarrer avec, entre guillemets, mon propre argent. Même si c'est un prêt, c'est quand même mon argent puisque je le rembourse. Et une fois que j'allais avoir démarré, peut-être après, on pourra parler de ça. Mais pour moi, il fallait que je le démarre, que je le matérialise avant. Donc, pour moi, non, c'est mon projet, c'est mon bébé. Je prends le risque seul et je prends mon argent. Donc, j'ai fait un prêt. J'ai pris un prêt CTLM.
Genre, ah oui, carrément.
Appartement.
Même pas la banque.
Non, je ne peux pas faire un prêt. Alors, premièrement, tu démissionnes. Donc, faire un prêt quand tu démissionnes, c'est pas
possible. Juste avant de démissionner, tu sais, le plan.
On ne peut pas. On ne peut pas faire un prêt en France pour un projet en Afrique.
Non, c'est pas possible. C'est vrai.
Et emprunter en Afrique alors qu'on est en France, ce n'est pas possible aussi. Donc, il faut trouver des astuces. Moi, j'ai pris mon prêt CTLM, aménagement de maison, je ne sais pas quoi, et puis c'est terminé, basta quoi. Voilà, donc je l'ai fait.
Alors, c'était quoi tes sentiments quand tu faisais tout ça? Est-ce que tu avais quand même de gros doutes ou est-ce que tu te disais, là, je crois vraiment à mon projet et voilà, advienne que pourra, voilà, je me lance. C'était quoi? Tu t'es partagé entre... Quel type de sentiment à ce moment-là?
Non, à ce moment-là, j'étais super excité. Franchement, j'étais passionné. J'y croyais dur comme fer. C'est-à-dire qu'on a atteint un business plan qui est là, bien rédigé, bien propre, avec des tableaux, etc., des graphiques, des ceci. Tu commences à faire ton logo. Tu commences à, tu vois, c'est là, c'est genre l'échographie avant que le bébé naisse. Donc, tu commences à voir les premières images. Le temps se rapproche et tout. Et tu ne penses pas aux problématiques, ou bien même chaque problématique, c'est excitant, tu vas le résoudre, etc. Et donc là, non, j'étais super motivé, j'y croyais dur comme fer, parce qu'à ce moment-là, vous avez encore l'argent du prêt. Donc, il y a l'argent dans la main, il y a l'argent dans le compte, etc. Il n'y a pas de problématique.
Oui.
Donc, à ce moment-là, non, j'étais encore bien chaud au moment où j'ai démissionné. Et avant d'aller au Togo, je suis parti en Chine pour, après avoir sourcé évidemment, pour aller acheter des machines d'emballage et des supports marketing. Et puis voilà. Et avant de rentrer après en novembre au Togo.
C'est une sacrée organisation. Déjà, tu as parlé tu as fait des essais, des tests et tout. Alors, tu dis que tu t'y connaissais pas spécialement. Est-ce que tu as eu
Non.
recours à des professionnels dans le domaine? Comment ça s'est passé sur place? Ou est-ce que
Pas
tu
du
as
tout.
fait à la débrouille américaine, voilà, tu
À
as
la débrouille,
associé?
exactement comme l'informatique. J'y connaissais rien et j'ai fait 10 ans de carrière là-dedans. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il
Waouh!
faut aller à l'audace. Et tu te
Bravo!
dis, si eux le font, pourquoi moi, je ne suis pas plus bête? Et encore une fois, on s'appuie sur des ressources parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc on s'appuie sur des ressources. C'est des heures, des jours, des nuits de recherche sur Internet par rapport au bouillon, à la fabrication des bouillons. Donc à regarder ce que fait bien évidemment la concurrence. Mais après, sur les épices, les vertus des épices, la disponibilité des épices, le prix des épices, enfin, y a beaucoup de choses. Vous voyez? Et après, pareil, s'appuyer sur des ressources humaines. Donc la personne qui m'a expliqué, voilà, par exemple le Soumala. Le Soumala, moi,
Oui.
voilà, qui est dans Africube, moi, je ne le connaissais pas trop puisque au Togo, je viens du sud du Togo, et on utilise plutôt pour les assaisonnements des poissons séchés, des poissons fumés. Et c'est quand on monte un peu vers le nord, donc il y a l'arbre de Néré qui pousse plutôt dans les régions des savanes sahéliennes. Et donc, les populations du nord Togo, elles consomment énormément le Soumbala. Moi, je ne le connaissais pas. Pas beaucoup, en tout cas. Et donc, c'est avec ça, la dame qui, elle, vient du nord, elle m'a appris comment ça se fait. Donc, j'ai vraiment découvert des épices. Et voilà. Donc, ça, c'est les ressources humaines. Elle t'explique comment ça se fait, les bienfaits, les vertus, comment on peut l'utiliser, comment on peut le transformer, qui aime, qui n'aime pas, etc. Donc, il y a un travail, encore une fois. C'est si tu veux, tu peux quoi. Enfin, je veux dire, si tu veux, tu peux. Donc, non, je n'ai aucune expérience en agronomie, en épices, en je ne sais pas quoi. Pas du tout. J'ai eu une idée. J'ai dit, OK, on va proposer une alternative saine, locale et abordable à la population. Voilà. Donc, ça sera un bouillon avec les ingrédients de chez nous que tu utilises pour faire ta sauce, une base culinaire et qui est saine, qui est locale avec des produits qui sont adaptés à nos sauces. Et quand tu regardes les ingrédients, bah, tu sais ce qu'il y a dedans. C'est pas
Oui.
E145, c'est pas glutamate monosodique. Voilà. Moi, j'avais un objectif de business. Et maintenant, comment j'y vais? Est-ce que c'est possible d'y aller? Comment j'y vais? Avec qui j'y vais? Avec quels moyens? Donc tout ça. Et là, c'est mon expérience de chef de projet pour organiser tout ça
Ah, ça sert, hein,
qui
finalement.
m'a aidé. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes hier à l'école. Il faut arrêter de vouloir sortir de l'école et dire je suis entrepreneur, j'ai inventé la roue. Non, non, non. Va travailler, va faire de l'apprentissage, va faire des stages. C'est pas rémunéré, on te fait faire les photocopies, on te fait faire le café du boss. C'est pas grave. Tu rentres dans l'entreprise, tu vois ce qui se passe, tu vois le système de hiérarchie, tu vois la gestion de stock, tu vois la comptabilité. Et c'est comme ça que tu apprends, même si ce n'est pas du tout dans ton domaine. Après, quand on te demande de faire des présentations, quand on te demande de faire des spreadsheets, des présentations Excel, mais ça te sert largement. Si tu sors de l'école, tu ne connais pas l'entreprise, et voilà. Donc moi, ça, bien sûr, en termes organisationnels, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Donc voilà un peu comment j'étais à ce moment-là et
Ça fait
avant
4 ans
maintenant.
aujourd'hui que AfriCube est sur le marché.
Tout à fait.
Et comment tu décrirais en fait l'évolution? Déjà, quel a été l'accueil d'un côté des consommateurs et de l'autre? Des leaders qui étaient sur place, sur le marché.
Ouais. Avant d'arriver là-bas, c'était vraiment. D'abord, c'est l'installation. C'est toute la phase projet où, pour quelqu'un qui est de la diaspora, qui a, on va dire, un bon boulot, et là, tu quittes et tu dis que tu vas faire un cube. Togolais, tes parents déjà, ils sont
Ah oui, c'est vrai.
désespérés. Bah, parce que déjà, ils me connaissaient. Je ne suis pas académique et Dieu par seul, quel miracle, je suis arrivé à avoir un très bon boulot de cadre informatique dans des grandes banques. Donc, alléluia. Et maintenant, je quitte pour dire que je vais au pays pour faire un bouillon de cuisine. Donc, voilà, il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Parce qu'à la fin, surtout pour des projets un peu innovants, comme le mien, c'est c'est chaud. Et l'accueil même qu'on a à l'arrivée, quand on arrive et on explique le projet aux membres de sa famille, au pays, aux amis, les gens te regardent, mais en se disant, oh, laisse-le, celui-là, là, il vient de France,
On les
il va
connaît.
faire ça, mais laisse-le, oh, laisse-le. Et puis, il va repartir avec ses clics et dans quelques mois, tu vois. C'est comme toi, et Kadi, si demain tu démissionnes, tu dis à tes parents, OK, Coca Burkina. Ah, c'est bien. Eh Dieu, tu vois,
Non, mais c'est
c'est.
un bon exemple parce que juste,
Oui.
bon, là, je vais faire une petite parenthèse, c'est que c'est pareil, moi, j'ai plus fait des émissions télé et tout. Aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, ce qui marche vraiment, c'est le visuel, c'est la vidéo, c'est le live et tout. Et pareil, quand je suis venue, j'ai dit, ben là, j'ai envie de faire des podcasts. C'est quoi les podcasts? Pourquoi podcasts? Qui va écouter les podcasts? Voilà, c'est en plein essor aux États-Unis, ici en France, mais pas encore en Afrique. Donc forcément, j'ai eu ce retour-là aussi. On n'a pas forcément l'adhésion de nos proches ou des personnes qu'on connaît, mais
Tout à fait.
faut y croire.
Et, mais c'est bien parce que ça forme la résilience, c'est un challenge. Moi, j'aime les challenges. Je dis, OK, il n'y a pas de problème, il faut regarder seulement. Et donc, je suis arrivé là-bas, j'ai récupéré la maison familiale, donc la maison de ma grand-mère. Et je pense que vraiment, ça m'a aidé. J'ai ressenti son énergie. Et donc, j'ai pris la maison de la grand-mère et puis on a commencé à s'installer, comme je disais tout à l'heure, à peaufiner les stratégies de commercialisation, de comment on va distribuer le produit, comment on va le marketer, comment on va le marketer, tout de l'administratif, donc les certifications sanitaires, commerciales, le recrutement des ouvrières, des commerciaux et tout ça. Donc c'était en mode projet, en mode start-up vraiment. C'était une très belle expérience, mais pendant ce temps-là, ça fait presque un an où vous ne gagnez rien et vous dépensez dans des loyers. Dans de l'argent, il y a les
Les
machines,
salaires.
il y a, voilà, l'investissement, les machines, les supports marketing que vous avez achetés, les parasols, les tabliers, les t-shirts, toute la matière première que vous devez acheter pour faire le produit, etc. Donc là, c'était, voilà, et vous dites, bon, vite fait, ça va sortir. Donc, jusqu'au mois d'août 2017, bon, le produit est sorti officiellement à la foire. On a une foire qui s'appelle Foire Made in Togo. C'est un peu comme le CIAO au Burkina. Donc, c'est une foire dédiée aux produits locaux. Et donc, Africube est sorti à ce moment-là, tout beau, tout propre. Et donc là, c'est vrai que c'était intéressant de voir l'avis des consommateurs. D'abord par rapport au packaging. Quand ils voyaient le packaging, ils pensaient. On n'est pas habitué à ce format-là au Togo. C'est un format qui, le format du stick, c'est un format qui est beaucoup utilisé au Sénégal, au Mali et au Burkina aussi.
Oui.
Mais au Togo, on est toujours dans les cubes. Et ça, c'est pour eux, c'est du Nescafé. Donc beaucoup de gens venaient vers le stand. Ah, c'est le nouveau Nescafé, c'est du Nescafé, c'est du sucre, c'est un bonbon. Les enfants, ils voulaient puis mettre dans la bouche et tout. Et c'était intéressant parce que bon, ça développe aussi la curiosité. Les gens viennent vers le stand. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une attente. D'abord, un, les gens, ils ne croyaient pas que c'est naturel parce que c'est emballé de manière, on va dire, industrielle. Donc, à chaque fois, il fallait ouvrir, les faire goûter et tout, pour qu'ils sentent le soumbala, l'oignon, le gingembre, etc. Et il y avait une attente. Ah, enfin, un bouillon sans glutamate. Ah, voilà. Et donc, on a eu une très bonne réception, surtout qu'on le vendait au même prix que les autres. Hein, c'est 25 francs CFA. Donc, c'est exactement le même prix que tous les autres bouillons chimiques. Donc, on a eu une bonne réception au début. Et les choses se sont très bien passées et tout le monde nous a félicités pour l'initiative, pour l'innovation, etc.,
Beaucoup
etc.
de presse, beaucoup de presse télé,
Ouais, non, pas
pas
trop. Alors,
spécialement.
il y avait la presse, disons, pour la foire. Alors, on a fait une campagne, hein, on a fait une campagne, mais l'année suivante, on a fait une campagne publicitaire dans tout le pays avec une caravane, etc. On a fait des pubs radio. Il y a eu des reportages qui ont été faits
Oui.
sur nous, des ministres même qui sont venus dans la fameuse maison là. Mais c'est tout. C'est tout. Vous voyez, le cube, ce n'est pas quelque chose qui est glamour. Un. Et de deux, ce n'est pas comme si j'ai construit une énorme usine avec un budget de 1 milliard de francs CFA et le Premier ministre qui va venir inaugurer. Et patati patata. Non, ça, c'était un petit atelier de production, une petite start-up dans une maison familiale. Donc, non, on s'est débrouillé avec nos propres moyens. Et on a monté, monté, monté comme ça. Donc voilà un peu comment ça s'est passé à mon arrivée au Togo.
C'est une belle aventure, une belle expérience. Les personnes rêvent de sauter le pas, de rentrer avec un projet. Toi, tu l'as fait. Et à ce stade-là, est-ce que tu peux nous donner des recettes pour nous, pour moi, pour des personnes qui écoutent le podcast, qui ont envie de vivre ce que tu as vécu?
Bon, il n'y a pas de recette. Hein. Franchement, il n'y a pas de recette. C'est vraiment les phrases bêtes où tu dis, oh oui, tu as un rêve, crois en ton rêve, va jusqu'au bout et tout ça.
Mais toi, tu l'as fait. On le dit souvent comme ça. Mais toi, tu l'as vécu.
Tout à fait. Je le vis encore aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il faut quand même être préparé. On peut pas juste arrêter. Moi, je me suis préparé. J'ai pas sauté le pas dès que j'ai eu l'idée. Franchement, je suis rentré donc au pays fin 2016. Il y a eu bien 2 ans à partir du moment où j'ai vu cette fameuse publication et le moment où je suis rentré. Vous voyez? Donc, oui, au moins 2 ans où j'ai fait donc justement mon plan d'affaires, où je suis allé 3-4 fois au pays, voir la réalité. Parce que c'est souvent ça, on en parlait tout à l'heure. À la fin, on peut être africain comme on veut, on peut être panafricaniste, on peut être militant. À la fin, lorsqu'on a vécu en France, aux États-Unis, on va toujours arriver au pays et voir les choses derrière un prisme occidental. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc, il faut vraiment garder les pieds sur terre et être vraiment préparé et être sûr que ce qu'on veut faire est adapté, à la région où on veut s'implanter. Voilà. Et il y a des choses immuables ici qu'on ne peut pas bousculer, ou si on veut le bousculer, il faut prendre un certain chemin. Il faut être préparé financièrement, socialement.
Les codes aussi. Tu n'as pas eu du mal. Tu disais que tu faisais des va-et-vient et tout, mais il n'empêche que quand on vient s'installer, quand on veut travailler, quand on veut monter une start-up, on peut être confronté à des réalités sociales qu'on n'a pas forcément eu le temps d'avoir ou de voir.
Tout à fait. Bon, dans mon cas, je n'en ai pas trop eu dans le cas du bouillon de cuisine. La problématique, c'était plutôt que... Bah, c'est un peu comme la cigarette hein, ou l'alcool. Donc, les gens sont habitués à quelque chose depuis des dizaines, voire une centaine d'années. Maman fait ça, utilise le cube, grand-mère utilise, tout le monde utilise le cube, et toi tu viens avec autre chose et tu dis que ça c'est mieux, etc. Qu'ils en aient conscience ou pas, c'est très très difficile de faire bouger ces lignes. Il y a un travail vraiment d'information, de sensibilisation, et c'est vraiment, tu gagnes un client. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les gens, tout le monde a un portable, tout le monde a les réseaux sociaux, tout le monde est connecté. Et ils voient très rapidement maintenant les méfaits des cubes sur l'organisme. Donc, ils peuvent aller sur Internet. Il y a plein de publications qui se partagent sur WhatsApp, sur les dangers des cubes, etc. Et donc, là où il y a 20 ans, on ne pouvait pas chercher l'information, là, et c'est-à-dire que c'est les agroalimentaires qui nous donnaient l'information de leurs produits, là, on peut aller chercher. Et je pense qu'il y a une génération maintenant africaine, jeune, qui est militante, qui est consciente, qui veut bouger les lignes et qui veut faire leur propre choix. Et donc, c'est à nous aussi d'aller dans ce sens. Donc non, je n'ai pas eu de problème en termes de code. Juste l'anecdote, c'est que, bon, les auditeurs ne me voient pas, mais je ressemble plutôt à un blanc plutôt qu'à un togolais. Et donc, à chaque fois, on pense que c'est un blanc qui est derrière Africube, ou un Libanais, ou un Indien.
Oui, bon, c'est vrai que...
J'ai eu beaucoup de choses. C'est juste mon nom et mon prénom qui me sauvent. Hein. Quelqu'un qui est togolais, il s'appelle Haïté Ajavon, il va savoir tout de suite que je suis togolais. Mais sinon, et c'est pour ça que, même dans ma stratégie, même quand vous pensez... dans votre business plan, je devais rester en retrait. Je ne devais pas apparaître à la télé, non seulement parce que je ne représentais pas du tout mon produit ou les valeurs même que je voulais incarner par rapport au produit. Hein, pour nous, par nous, on fait les choses nous-mêmes. Et surtout quelqu'un, en plus, qui n'a pas grandi au Togo. Donc, le but, ce n'était pas que je me fasse le porte-parole d'Africube. Quand on m'interview comme là, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, à la fin, je suis ce que je suis. Oui. Mais c'est que je ne représente pas le produit. Et donc, on allait dans les villages ou ailleurs. Et je me rappelle qu'en langue, il y a des dames qui disent « Ah, mais c'est quand même incroyable, les Blancs, là, même, ils viennent au pays nous vendre le Soumbala. » Ah, j'ai dit « Madame. »
Non, mais c'est vrai, le métissage en Afrique, ce n'est pas le même que le métissage en France. En France, par exemple, voilà, tu seras dans la catégorie noire et en Afrique, tu seras dans la catégorie blanche. Donc, forcément, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce détail-là. Donc, du coup, tu as eu à te justifier
Je
ou...
me justifie à chaque fois. Je peux parler pendant 1 heure à une personne qui n'a aucune idée. Donc, elle me parle hein, en tant que DG de Africube. Donc, je vais lui parler de produits locaux, de pour nous, par nous, on fait les choses par nous-mêmes, vive le Togo, tout ça. Et à la fin, mais elle pense que je suis blanc. Et à la fin, j'ai dit, mais non, je suis togolais. Ah bon? Ah, je croyais que vous étiez ceci. Et donc, bon, donc souvent, oui, je dois me justifier pour dire non, je suis togolais, je suis togolais, je suis togolais. Voilà. Donc, bon, après, voilà, je comprends, il n'y a pas de souci, c'est juste anecdotique.
Ça
Et
semble pas te
effectivement.
poser de problème, hein. Toi, ça te pose pas de
Non,
problème. Je
non.
connais des personnes qui le vivent mal, en fait. Donc, toi, ça a l'air d'aller.
On peut pas le vivre mal. On peut pas le vivre mal. Oui. Parce que ici, à la fin, c'est une différence, je vais pas dire positive, mais. Ça ne va pas me bloquer quelque part. Ma couleur de peau, mon aspect, mon look. OK, on va pouvoir penser, voilà, comme la dame, elle n'était pas contente parce qu'elle dit, voilà, il y a le blanc, il vient nous vendre le Sumbala au Togo. Donc, elle n'est pas contente. Mais à la fin, bon, on va pas me boycotter parce que j'ai la peau claire ou parce que je suis métisse ou quoi. Au contraire, en France, ça aurait été un blocage. Ça aurait été un blocage parce que la différence crée le blocage en France. Donc, si j'avais voulu, je ne sais pas, je pense que vous avez reçu justement Monsieur Diallo, là, qui fait le champagne. Voilà. Donc, est-ce que lui, donc, je ne sais pas, peut-être sa cible, c'est notre communauté, mais est-ce que le gars, il va aller en Champagne-Ardennes pour présenter son champagne
Non, ça
avec
cible, c'est...
les blancs, 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 blancs? Les gars, ils vont même pas le regarder. Ils vont le mettre sur le côté. Voilà. Donc voilà, sa cible, il sait exactement quelle cible. C'est pour ça que je dis que ici, oui, c'est la différence. Je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais on ne me rejette pas. Je ne suis pas mis à l'écart. Je ne suis pas bloqué. Au contraire, à la fin, c'est vraiment anecdotique, quoi.
D'accord. Et je t'avais posé la question tout à l'heure. Quel a été l'accueil de la concurrence? Est-ce que tu as eu affaire à la concurrence
Non,
directement?
la concurrence, d'ailleurs, ils ne nous voient pas. On est trop petits, vous savez.
C'est des...
C'est des mastodontes.
Oui.
C'est des volumes extraordinaires. J'ai les chiffres seulement de 2016. En 2016, Nestlé, Maggi, vendait 100 millions de cubes par jour en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et on va dire qu'ils représentent 65% du marché. Ce qui veut dire qu'ils se vendaient à peu près 160 millions de cubes par jour en 2016. Donc, on va dire, allez, si on dit 200 millions par jour aujourd'hui, voilà, vous rendez compte de la quantité astronomique. Et c'est pour ça que toutes ces compagnies se positionnent, parce que crise, pas crise, tout le monde mange
Toujours.
du cube tous les jours, toutes les populations, etc. Donc, je suis bien trop petit, et même s'ils me regardent, mon dossier doit être classé loin, 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 loin. Donc,
Bah, ils te voyaient pas
non.
venir, hein, on sait jamais.
Eux, ils
C'est
vont
quoi? Est-ce que
s'adapter.
tu
Ils vont
vises
s'adapter à la demande, mais.
quelle part de marché tu vises?
Premièrement, c'est super difficile d'avoir des statistiques en Afrique par rapport à ça. Chaque compagnie a ses statistiques. Après, c'est un peu difficile. Je pense que je vise le 1% dans les 5 ans. 1% dans les pays où je serai implanté. Mais à mon stade, c'est très difficile. Encore une fois, on n'a pas accès à des statistiques. Vous allez avoir des statistiques d'importation. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un travail que je dois faire. Moi, mon objectif pour l'instant, c'est que, un, tous les Togolais soient au courant qu'il y a une alternative au cube. Donc, on n'est pas beaucoup, hein, entre guillemets, 7 millions et demi. Donc, tout le monde doit. Après, tu achètes pas haut. C'est ton choix. C'est ton choix. Mais tu dois savoir qu'il y a une alternative qui est naturelle, qui est locale et qui est abordable à 25 francs CFA. Voilà. Et au moins, tu l'as goûté une fois. Donc, ça, c'est l'objectif que je veux vraiment atteindre très, très vite. Voilà quoi. Mais sinon, la concurrence, non, il y a rien avec la concurrence, hein, sincèrement. En tout cas, je pense que lorsque les concurrents vont me voir, je serai déjà arrivé à un certain niveau. Mais je m'y prépare de mon côté.
D'accord, t'as pas eu des propositions de mastodonte
Oh,
déjà
c'est trop tôt. Il faut
c'est trop
vraiment que
tôt.
vous soyez vraiment à l'échelle et que vous brassiez vraiment énormément d'argent, que vous ayez déjà des usines bien et qu'ils. Il faut, en fait, ils peuvent vous observer, ils vont attendre vraiment que votre produit soit validé et que ça grignote une part de leur marché.
Oui.
Tant que vous pouvez faire beaucoup de bruit, on peut en parler dans le cercle des entrepreneuriats, tant que vous n'êtes pas dans le cercle décisionnel, on ne parle pas de vous dans les conseils des ministres, puisque bon voilà, tout est attaché, hein, les industriels avec la politique et tout ça, on ne va pas vous regarder. Eux, ils ont leur chiffre mensuel, ils vont regarder au Togo, leur chiffre est stable, il n'y a pas de problème. Donc, non, non, non. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas eu de proposition.
D'accord. Donc là, on parle de cuisine. Est-ce que tu as des partenariats avec de grands chefs africains? Est-ce que tu as eu des partenariats pour présenter le produit déjà?
Non, non, j'ai jamais eu de partenariat avec des chefs. Cuisinier africain, des grands chefs. J'ai eu des contacts, hein. J'ai eu des contacts, mais c'est particulier en fait, les chefs. Vous avez deux sortes de chefs. Bon, il y a les
Oui.
faux chefs, on va dire, on va les vrais chefs. Quand je dis faux chef, ça veut dire qu'un chef qui cuisine avec du cube magique, pour moi, n'est pas un chef cuisinier. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, eux, ils ne savent pas cuisiner. Donc, si tu enlèves le cube magique pour mettre des épices, il n'est plus chef et il perd son job. Donc, eux, on ne peut pas travailler avec eux.
Oui.
Et le vrai chef, entre guillemets, n'utilise pas de condiments déjà faits, déjà préparés. Il va te dire que lui fait ses propres mélanges d'épices,
Il va faire son bouillon.
avec, voilà, il va faire son propre bouillon, et blablabla. Donc, c'est deux extrêmes et je les comprends, hein, je les comprends tous les deux. Donc, de toute façon, ce n'est pas du tout ma cible. Après, il y a des chefs qui sont très attachés à travailler justement avec des produits locaux, etc. Donc, un chef peut très bien vouloir nous aider et
Pour le
à
marketing, oui.
promouvoir Afrikip, voilà, et dire, voilà, je peux être représentant, ambassadeur, égérie, blablabla, et vous faire profiter de ma notoriété pour faire connaître le bouillon et
Tout à
faire
fait.
des vidéos. Burkina, je ne sais pas, mais au Sénégal, il y a des blogueurs culinaires. Alors, ce n'est pas des chefs, mais c'est des blogueurs culinaires, mais qui ont encore beaucoup plus d'impact même que des grands chefs,
Oui.
et utiliser un produit et des centaines de milliers de vues, elle va utiliser Africube pour faire sa marinade, pour faire son chef. Et à la fin, oui, ça peut nous servir en termes marketing. Mais moi, j'ai envie d'un vrai partenariat. Je ne veux pas juste d'un sponsoring. Tu payes la personne, elle
Oui.
utilise ton produit, elle fait semblant, ouais, c'est super génial. Et le lendemain, elle fait la même chose pour Adja ou Jumbo. Ça n'a pas de sens. Je veux quelqu'un qui soit
Qui
impliqué.
croit au produit, oui.
Qui croit au produit, qui aime vraiment le produit, qui peut même m'aider à l'améliorer ou à faire d'autres gammes, donc qui soit vraiment impliqué. Et là, on a un vrai partenariat. Là, ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais le reste, là, ça ne m'intéresse pas.
D'accord. Donc là, au début, enfin, on a parlé tout à l'heure du fait que tu as travaillé sans lever des fonds, tu es parti sur des économies, sur des prêts personnels. Est-ce que tu envisages, à 4 ans d'expérience, est-ce que tu envisages de faire appel à des investisseurs?
C'était dans ma stratégie, je fais avec mon argent, je fais mon produit, je le valide, je prouve qu'il y a un marché, je prouve que j'ai un savoir-faire, et là, maintenant, je peux chercher l'argent parce qu'il y a une valeur. Quand c'est un morceau de papier, tu vas chercher l'argent, le 1% de ta société valait 1 dollar. Là, si mon 1%, quelqu'un veut rentrer, ça ne vaut plus 1 dollar. Donc, ça a pris de la valeur. Donc, ça, c'était ma stratégie en termes de financement. Maintenant, attention, je n'ai pas été plus loin, mais mon argent, mes économies, mon prêt, là, ça a vite. Déjà en 2018, donc quelques mois après le lancement, j'étais à sec parce que c'est un produit qui coûte 25 francs CFA. C'est un produit de masse et pour gagner dans ce genre de produit, il faut être à l'échelle. Donc, vendre des milliers et des milliers. Surtout que j'utilise des produits nobles. Les épices coûtent très cher, les prix varient selon les saisons, il y a des spéculations sur les matières premières, c'est
Oui.
terrible. Donc ça aussi, c'est les trucs dans le plan d'affaires, voilà, tu n'as pas pensé à ça, etc. Et c'est une bonne leçon. Donc quelques mois après la sortie, j'avais grave des problèmes d'argent et j'ai vraiment été dans la galère dans l'endettement, etc. Et en justement en
La vie
fin de vie.
d'entrepreneur, quoi.
Non, non,
Juste.
c'était chaud. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas, le produit était sur le marché, tout le monde est content, mais moi, j'étais super stressé, j'étais pas bien, c'était difficile. En plus, tu es tout seul, tu es tout seul. Et ce qui s'est passé, alors, deux choses se sont produites. Première chose, c'est que j'ai réussi à avoir, à séduire, on va dire, les autorités par mon projet, à les convaincre du bien fondé et de l'impact social du projet, puisque quand on achète Africube, ben, on crée de la richesse nationale, hein, puisque moi, l'argent, je l'utilise pour acheter les matières premières, pour que ça crée de l'emploi. Enfin, il y a beaucoup de choses. On revalorise nos matières premières, et puis c'est bon pour la santé, etc. Et puis, on fait de la création de richesse. On transforme de la matière première jusqu'à un produit fini. Et c'est ça qui est très important. C'est ce qu'on ne fait pas assez dans nos économies. Et donc, via des institutions étatiques, on va dire, j'ai réussi à obtenir 23 millions de francs CFA. Et c'est avec ça que j'ai pu payer de nouvelles machines pour augmenter ma capacité de prod et surtout faire une grosse campagne de publicité à Lomé avec des panneaux. J'ai pu acheter des motos brandées pour mes commerciaux, un tricycle brandé, etc. On a fait une campagne de 6 ou 7 semaines à Lomé avec 15 personnes que j'ai recrutées. Bon, voilà. Pour booster, faire connaître le produit. Mais après, c'est pareil, il faut rembourser le prêt une fois que tu as fait cette campagne-là. Voilà. Donc, tu vends, oui, tu vends, mais ce n'est jamais assez. Donc, tu dois rembourser le premier prêt que tu avais fait en France, le second prêt, tu dois payer l'opérationnel, ton fonds de roulement pour payer les gens, pour payer le loyer, pour payer les matières premières. Et là, tu es étouffé, complètement étouffé. Et j'ai eu des moments où je voulais arrêter. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à convaincre un ami d'enfance d'investir dans la société. Et c'est lui qui a renfloué la société par un investissement massif au cours de 2019 et 2020. Voilà,
D'accord.
qui nous a permis de boucher les trous et de réinvestir dans d'autres matériels, dans d'autres packaging, etc. Donc maintenant, j'ai un associé qui est un ami d'enfance. Lui, il travaille, donc c'est plutôt un associé financier. Il croit en moi, il croit en produit. Il est panafricain. Il est
Il vit
d'origine
en France.
antillaise. Non, non,
Ah.
non, il vit en Angola. Il travaille dans le
D'accord.
milieu pétrolier. Il est d'origine antillaise, panafricain à fond. Et donc,
D'accord.
grâce à lui que j'ai survécu et que Africube existe même encore jusqu'aujourd'hui parce que les banques n'allaient pas financer. J'allais mourir comme ça. Enfin, j'allais mourir. Je parle de mon produit. Ça
Oui,
allait
tout à fait,
mourir comme
on
ça.
comprend bien.
Donc,
Ah
c'est
oui,
pas.
heureusement, il y a eu quand même des rebondissements,
Tout à
sinon on
fait.
t'aurait pas connu malheureusement,
Tout à
mais
fait.
voilà,
Tout à
c'est
fait.
dire qu'il y a toujours peut-être une porte de sortie. En tout cas, merci à lui, hein,
Tout
à
à fait.
notre business angel de l'Angola. En tout cas, là, on a parlé du produit. On va parler un petit peu des points de vente parce que tu es commercialisé dans pas mal de pays en Afrique. En France depuis quelque temps, aux États-Unis, n'est-ce pas? Je te laisse nous donner les points de vente pour ceux
Tout à
qui veulent
fait.
se
Tout à
procurer
fait.
tes produits.
Sachant que le but, moi, de mon projet, c'était vraiment la consommation locale, c'est-à-dire consommer ce qu'on produit. Africube, c'est vraiment pour l'Afrique et on va dire que la diaspora et l'étranger, c'est un bonus avec des revenus qui me permettent justement de financer des choses moins lucratives ici. On est vendu donc au Togo, bien entendu, hein. On a des points de vente, on a un point de vente à Abidjan, on a un point de vente à Bamako, on a un point de vente à Cotonou et on a un point de vente à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Ça, c'est les points en Afrique de l'Ouest. On a un point de vente à Libreville au Gabon et bientôt, on va dire d'ici quelques mois, avant la rentrée, avant septembre, on sera aussi à Niamey et à Douala. Donc ça, c'est pour les points en Afrique. Et donc à New York, on est à New York, effectivement. Donc, mais tout aux États-Unis, hein, parce qu'il a un site web et il envoie dans tous les États-Unis. Donc n'importe qui est aux États-Unis peut commander sur son site. Je vous donnerai tous les points de vente sont sur notre site africube.tg de toute façon.
D'accord, je vais
Et
le
donc
mettre en lien.
voilà, en France, on est commercialisé donc dans la région parisienne, hein, dans quelques départements, dans le 98, dans le 92, 91. On est sur africube.fr, donc là aussi. partout en France où vous
On peut
pouvez
se faire
commander,
livrer?
tout à fait.
Ah
On
oui.
peut se faire livrer et la livraison est inclue dans le prix. Donc, que vous soyez à Nice, à Rennes, à Strasbourg, vous allez payer le même prix. Et
D'accord.
donc, récemment, ce qui a été intéressant, donc on est à Châteaurouge, bien entendu. On va être bientôt, à partir de la semaine prochaine, dans les supermarchés Bao. Alors, Bao, c'est super intéressant parce que c'est un supermarché tenu, créé et tenu par des entrepreneurs africains, congolais, un frère et une sœur, qui ont créé un supermarché qui s'appelle Bao, à
Je connais pas.
Cergy et à Saint-Denis. Bao, le supermarché du soleil. Et ça
D'accord.
doit être le seul, alors je ne parle pas de boutique, mais vraiment de supermarché. Ça doit être le seul supermarché tenu par des Africains. Donc, on
D'accord.
sera chez eux à partir de la semaine prochaine. Et sinon, on est en grande surface, donc chez Auchan. Alors, pas dans tous les Auchan. Auchan à Mantes-la-Jolie. On est au Franprix de Montreuil. On est au Leclerc de Viry-Châtillon. Voilà.
D'accord.
Et donc, le but, c'est vraiment de mettre à disponibilité Africube dans les grandes surfaces où on va tous les jours à un bon prix. Donc, ça, on va essayer de booster. Encore une fois, c'est pour générer des revenus en euros pour bosser en Afrique, quoi. À la fin, l'argent, il revient en Afrique. Et c'est ça qui est intéressant dans Africube. C'est une économie circulaire où l'argent circule entre nous. Quand je dis entre nous, entre Africains. Et non le contraire. Et c'est pas un produit importé. Quand on achète Maggi, bah, 80% de l'argent, et bah, il va en Suisse chez
Il
Nestlé.
revient.
Donc, on ne gagne rien. Donc, voilà tous les points de vente. Et on est ouvert, bien sûr, hein, parce que moi, j'ai mon rêve, c'est d'être présent dans tous les pays. Je veux être en Guinée, je veux être au Sénégal, je veux être au Congo, Kinshasa,
Ouvert
etc.
aux éventuels
Donc,
distributeurs.
tout à fait. On recherche des distributeurs qui seraient capables de porter le projet dans leur pays respectif.
Et j'ai vu que vous étiez sur Amazon.fr.
Tout à fait, on est sur Amazon. Bon, c'est un peu comme africu.fr, hein, sauf que voilà, la cible elle est plus grande. Mais je
Oui.
pense que, voilà, donc pour commander aussi partout en France, vous pouvez aller sur Amazon. Et le but là, c'est plutôt d'être sur Amazon, c'est plutôt pour les pays européens. Quelqu'un qui habite en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, voilà, de pouvoir profiter de cette plateforme, pouvoir commander de n'importe où en Europe. Voilà. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est la disponibilité, faire connaître nos produits et que les gens puissent le trouver très rapidement sur Internet ou près de chez eux.
Mais à ce rythme, je pense que tu vas commencer à faire peur aux leaders du marché parce que là, tu es quasiment partout là, je pense. Parce que vu qu'on peut commander en ligne et se faire livrer, donc voilà, c'est aujourd'hui on fonctionne comme ça hein, un peu
Tout à
partout.
fait. On achète
Voilà.
tout sur
En plus,
Amazon,
avec
sur.
la Covid, on a appris à vraiment commander en ligne. Donc voilà, c'est super intéressant. Je suis contente de découvrir ce produit. D'ailleurs, bientôt je vais au Burkina. Je pense que je vais en
Super.
parler autour de moi aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. Peut-être qu'ils le connaissent déjà.
Et prendre ton stock là-bas. En
Effectivement, je vais
termes de
rappeler mon
prix, tu
stock.
vois, ça va être mieux pour toi.
À fait. Alors moi, j'ai envie de poser une question. On sort des points de vente, du produit en lui-même, et te demander si tu as des personnes inspirantes, des personnes qui t'inspirent. Si oui, qui, pourquoi?
Les personnes inspirantes, non, je dirais que grosso modo, les personnes inspirantes, c'est les personnes, voilà, qui arrivent à se débrouiller, qui ont rien et qui se bougent et à la fin, elles ont quelque chose. Et je ne parle pas forcément de richesse matérielle, mais elles ont réussi leur vie, elles sont épanouies. Après, moi, on va dire les personnalités que j'adule et que je trouve extraordinaires, bah, ton président, hein, Thomas Sankara, c'est vraiment une
Ah ben,
figure
un bon
que j'adore.
panafricaniste.
Au plus haut point, sa simplicité, son pragmatisme, ce qu'il a réussi à faire, je pense, en 4 ans de présidence. Voilà quoi, je veux dire, c'est incroyable. Et donc, le fait de promouvoir l'utilisation de nos ressources pour s'enrichir entre nous et redonner la fierté, se redonner la fierté en tant qu'Africain, c'est quelque chose. Donc, Thomas Sankara, il y a les personnes comme Cheranta Diop aussi. Voilà, c'est vraiment les deux personnes. Alors, après, je suis sûr qu'il y a des personnes plus contemporaines que je peux admirer par rapport aux telles actions. Il y a plein de personnes anonymes. Il y a ce docteur au Congo qui reconstruit l'appareil génital des femmes qui ont été violées à l'est du Congo. Je pense qu'il a été le prix Nobel de la paix l'année dernière. Je ne me rappelle plus de
Oui.
son nom. C'est des personnalités, voilà, inspirantes au plus haut point. Donc là, on ne parle vraiment pas d'argent ou des réussites matérielles. C'est vraiment par rapport à des valeurs. Et il y a des gens comme, comme Malcolm X, bien entendu. Eux, ils ne peuvent pas voir, mais derrière moi, il y a plein de petites phrases inspirantes comme ça. Ah. Et il y en a une, celle que je préfère, c'est celle de Malcolm X, qui disait, au lieu de supplier l'oppresseur de te laisser entrer et t'accepter dans sa maison, construis ta propre maison. Et c'est exactement ça, la mentalité qu'on doit avoir. Ça ne sert à rien de vouloir travailler pour être directeur de telle grosse entreprise. Ou, enfin, on a toujours, notre baromètre est toujours chez les autres. Notre baromètre est toujours chez les autres. Il faut que L'Oréal nous dise que beurre de karité, c'est bon pour que tout le monde court pour beurre de karité. Il faut qu'on nous dise que Nestlé dise, ou je ne sais qui, dise que la poudre de baobab a telle et telle vertu. Et maintenant, tout le monde court derrière poudre de baobab. Tout le monde court derrière le moringa. Alors que ta grand-mère t'avait mis beurre de karité sur tes lèvres, mais toi, tu voulais le lipstick qui venait des États-Unis. Oui. Ouais. Donc, il faut être fier de ce qu'on a, il faut être fier de nous. Et il faut construire notre propre maison, nos propres baromètres et arrêter de se fixer aux autres. Et anecdotique, hein, vous voyez, quand je parle d'Africube qui est vendu à l'étranger en France, à chaque fois que je vais rencontrer bien des classes plus aisées au Togo ou ailleurs, la première chose qu'ils vont te dire, félicitations, Africube est vendu à Auchan, Africube est vendu en France, ah, c'est à New York, hein, alors que ça nous représente peut-être 0,01% de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu es validé. C'est même là, quand tu vas voir une banque, la première chose que tu vas dire, je suis vendu en France chez Auchan, chez Leclerc. Et les gars sont impressionnés. C'est un tampon de respectabilité qui te dit, ah, si le blanc là, il a validé, c'est dans leur magasin, ça veut dire que c'est bon. Et c'est incroyable. Et on est obligé de se servir de ça maintenant pour se faire financer ou bien même pour se faire pour avoir ce tampon justement de respectabilité pour dire « Ah ok, si c'est vendu là-bas, donc j'achète. »
C'est vrai, c'est une réalité. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Et du coup, tu es obligé de jouer le jeu aussi finalement.
Oui, à la fin, moi, c'est aller vers l'objectif. Ok, oui. C'est vendu à Leclerc, je peux me financer, il n'y a pas de problème. À la fin, moi, je sais que l'argent, il revient là. Et je sais que même si c'est vendu à Leclerc, tout ce qui est à l'intérieur là vient des terres africaines, vient des terres togolaises. Mmh. Ouais. Donc à la fin, voilà, eux ils vont prendre leur centime d'euros. Ok, on joue le jeu, hein. On joue le jeu. Il y a pas de problème. On est dans le business. Mais à la fin, voilà, l'argent revient ici. Donc si tu penses que c'est ça qui fait que mon produit est bon, il y a pas de problème.
On accepte. Alors notre interview tire vers sa fin. On n'a pas vu le temps passer. Hein. J'ai envie de te poser une question. En fait, je profite toujours de mes invités pour avoir d'autres invités qui ont des parcours inspirants. J'ai pas toujours la chance de tomber sur des personnes comme toi sur LinkedIn au détour d'une invitation, tu vois. Donc voilà, j'en profite. Est-ce que tu as des personnes à qui tu penses qui pourraient être invitées sur le podcast?
Bon, j'ai parlé tout à l'heure. Du frère et de la sœur qui ont ouvert les supermarchés en région parisienne. C'est un super parcours. Enfin, moi, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. En plus, ils font tout ensemble et ils sont tellement actifs. Ils ont même leur propre marque. Donc, ils font du conditionnement au Sénégal, au Cameroun, leur propre marque, etc. Et ça, c'est hyper inspirant. Je connais pas leur parcours, mais c'est des personnes, en tout cas, que tu pourrais inviter.
Moi, je découvre comme ça un supermarché typiquement africain qui fait des produits avec des packagings, avec leur marque et tout. Franchement, avec tout plaisir, hein, je les contacte et ça va être une belle découverte en tout cas. Alors, c'est bientôt la fin. On va quand même te laisser le soin de finir cette interview. S'il y a quelque chose que tu n'as pas pu dire pendant le podcast, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, tu as le dernier mot.
D'accord, c'est gentil. Non, je pense que j'ai fait le tour. L'important, dans tous les cas, c'est pas moi. L'important, c'est vraiment le produit. Donc, moi, j'apporte une alternative saine, locale et abordable. Donc, moi, l'histoire, c'est de donner le choix. Et à la fin, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ce qu'on doit faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, construire nos propres maisons. Ça sert à rien d'aller blâmer les Français, les Libanais, les Chinois. La France-Afrique, Macron, on est super actifs sur Facebook et tout. Mais à la fin, tu vas dans la boîte de nuit du Libanais, tu manges Nestlé, tu manges Danone. Donc, à la fin, ça ne sert à rien. Le seul pouvoir que nous, on a, d'abord, c'est notre pouvoir d'achat. Si magie, il est là, c'est parce qu'on consomme. Si on ne consommait pas, magie ne serait pas là. C'est aussi simple que ça. Et s'il est là, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part qui n'est pas comblé par nos propres entreprises. Donc, au lieu de tirer les autres vers le bas, c'est le business. À la fin, voilà, là je parle à l'américaine, c'est la concurrence, c'est le marché qui décide.
Ça fait partie de...
C'est le marché qui décide. Et à la fin, nous, on est des consommateurs marketing. Et voilà. Donc, au lieu de tirer les autres vers le bas, il faut regarder et monter vers le haut. Quand je dis monter vers le haut, c'est-à-dire aller vers le consommateur, aller vers le produit marketing. Est-ce que, OK, je vais faire un bouillon, qu'est-ce que j'attends de ce que je veux consommer? Il ne suffit pas qu'il soit naturel, local, il faut qu'il y ait un bon packaging, il faut qu'il y ait une identité visuelle forte, il faut qu'il y ait une promotion, il faut qu'il y ait un storytelling, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Donc, le but, ce n'est pas de se plaindre, « Ah oui, on ne se supporte pas entre nous. » Non, frère, si tu as un produit qui est mal emballé, qui est trop cher, qui n'est pas disponible, qui n'est pas ceci, donc à la fin, il faut se prendre en main. Et il faut s'affirmer. Et je vais sortir encore une autre phrase là. L'affirmation de soi, ce n'est pas la négation de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'affirme en tant que Togolais, en tant qu'Africain, nos produits, que l'autre n'a pas, qu'on nie l'existence de l'autre. Je ne suis pas en train de faire de la xénophobie en disant que tout ce qui est importé ou tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas bon. Pas du tout. Pas du tout. Moi, voilà, autour de moi.
C'est important de le dire et moi, je l'ai compris.
Tout à fait. Tout à fait. L'affirmation de soi n'est pas la négation de l'autre. Mais on doit s'aimer d'abord, on doit s'affirmer pour qu'on nous respecte aussi et qu'on ait nos propres baromètres et qu'on soit d'égal à égal. Et ce qui peut venir de l'étranger, ça peut être un enrichissement. Mais quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Si le cube magie, c'était un super bon produit avec du basilic, du thym, des herbes de Provence, OK, ben là, j'aurais rien à dire. C'est bon pour la santé, c'est bon. Et on aurait été en compétition. Donc, moi, j'encourage tout le monde, ceux qui ont la passion de rentrer dans l'entrepreneuriat, de revenir ou d'être en Afrique ou de revenir, si vous êtes membre de la diaspora, pour vraiment mettre la pierre à l'édifice, à la renaissance africaine, chacun dans le monde du service, de l'agroalimentaire, de la banque, de la politique, de tout. Et c'est comme ça, au lieu de se plaindre constamment, relevons nos manches et puis on bosse, quoi.
J'ai même pas eu besoin de te demander ta vision de l'Afrique, là je l'ai. Et en plus, et comme par hasard, sans faire exprès, mes derniers invités, ben, ils ont à peu près le même discours. Je pense que je vais vous mettre en relation. J'ai eu un diopiste très très fervent, disciple de Cheikh Anta Diop, qui lui, voilà, il a créé une génération qui s'appelle la génération Cheikh Anta Diop, qui est au Burkina d'ailleurs. Je pense que si tu vas au Burkina, je te donnerai son contact avec plaisir parce que vous aurez beaucoup de choses à vous dire. Et mon dernier invité, pareil, il avait le même point de vue et tout. En tout cas,
super.
Bah, merci pour cette vision.
Merci
je pense
à toi.
On a de beaux jours devant nous. L'Afrique ne peut qu'évoluer avec des personnes comme toi, comme ceux que j'ai pu recevoir sur le podcast. Et félicitations pour ce
merci
challenge.
Beaucoup.
Et félicitations merci. Aussi pour notre santé. Voilà, on pourra consommer ça.
C'est le plus important, l'aspect santé publique, oui.
En tout cas, merci beaucoup, Haïté, et je te souhaite une très, très bonne continuation. Et je n'hésiterai pas une seconde à utiliser tes produits et aussi à les conseiller à ceux qui écoutent le podcast.
Merci, Kadi. J'attends, oui, ton retour gustatif par rapport à Afrique. Il faut faire un bon taux avec sauce baobab.
Voilà, exactement. Merci à toi. Au revoir. Bonne soirée.
Merci, Kadi. Au revoir.